l'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
Que voulez-vous, madame ? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Bonjour Michel Miaille, vous êtes président du conseil scientifique de l'Agora des Savoirs. L'Agora des Savoirs, c'est la 10e saison. Ça se déroule les mercredis à 20h, salle Rabelais. Divergence est partenaire, alors pas depuis 10 ans, hein, parce que là, donc ce sont les 10 ans. Mais en tout cas, toutes ces conférences sont diffusées en direct sur Divergence. Et on est là pour parler du premier cycle de ces 10 années. Alors peut-être, avant de parler de ce cycle et de ces conférences, de donner envie finalement aux auditeurs de venir salle Rabelais. On peut dire que c'est 10 années avec beaucoup de public.
Alors, non simplement c'est avec beaucoup de public, ça n'a jamais désempli depuis 10 ans, mais c'est surtout un panel d'intellectuels français et étrangers depuis 10 ans, à mon avis, incomparable en France. Je crois qu'on a reçu les plus grandes gloires avant qu'elles ne soient reconnues par Paris et par le reste du monde. Je pense, par exemple, à des économistes, je pense à des anthropologues. On a eu des auteurs que personne n'avait jusque-là vraiment reconnus et dont nous avons été presque parmi les premiers à célébrer l'intelligence, le savoir et la communication. Donc je crois que cette expérience depuis 10 ans est assez unique, alors à Montpellier bien sûr, hein, mais même en France, puisqu'on a même eu une fois une délégation allemande qui est venue voir comment on faisait pour voir s'ils pouvaient répliquer ce type de concept, disons, à Heidelberg, puisque c'est notre ville jumelle. Et on a eu de la part de tous les conférenciers qu'on a invités, des marques d'intérêt et de reconnaissance rares, hein, de la part de gens dont, le pédigré est tel qu'on ne les approche qu'avec beaucoup d'humilité et qui se sont montrés toujours extrêmement aimables, compréhensifs. Et je pense que la dernière conférence qui a ouvert le 10e cycle, M. Rosanvallon, ne dément pas cette ambiance et puis cette reconnaissance par ces intellectuels qui nous disent mais il n'y a rien d'autre en France comparable à l'Agora des Savoirs.
Et les conférences qui se jouent à guichet fermé, si le guichet était ouvert, mais c'est gratuit.
Et c'est gratuit, et donc là, mercredi dernier, on a dû refouler des gens, ce qui fait que quand j'arrive, je suis toujours un peu gêné parce qu'il y a des gens que je connais qui me disent enfin, fais-moi rentrer, mais je ne peux pas, et je ne peux pas passer des coupe-fil, c'est pas possible. Il y a même un élu actuel qui a été refoulé. Foulé, je l'ai su après, et qui n'a pas pu rentrer dans la salle. Et en plus, c'est l'ancien conseiller municipal, initiateur de ce projet il y a 10 ans.
Ah. En tout cas, il a pu soit écouter Divergence, soit aussi aller sur la chaîne YouTube.
Voilà, il y a le podcast qui nous vaut d'avoir quelques milliers d'auditeurs grâce à vous le mercredi soir, et d'avoir un podcast, alors sur des mois et des mois, hein, puisque tout a été enregistré depuis 10 ans, des gens qui participent et qui savent, j'ai eu par exemple des gens qui m'ont dit « Ah ben je vous ai vu » ou « J'ai vu un tel que… » Bon, j'avais un peu oublié. Et donc visiblement, c'est quand même quelque chose qui marque le conscient, j'allais dire l'inconscient, le conscient collectif.
Et en tout cas, pour donner la petite cuisine, il y a des auditeurs qui nous demandent, hein, parfois sur Facebook, mais j'ai entendu, parce que nous rediffusons les conférences, j'ai entendu tel auteur, est-ce que je pourrais trouver le podcast ? Et effectivement, on peut le fournir, et ça c'est vraiment…
Absolument.
Précieux.
Absolument.
Alors, on va parler de ce premier cycle, hein, qui va donc se dérouler de novembre à décembre, avec peut-être la conférence du mercredi 14 novembre, celle de Virginie Maris, qui est philosophe au CNRS, qui va nous parler de la part sauvage du monde. Elle va chercher à nous faire comprendre l'altérité de la nature qui participerait à notre liberté. Mm-hmm. Et on va opposer l'homme à la nature. Hein.
Alors… Le texte qu'elle nous a fourni, cette conférence est une invitation à reconsidérer cette nature indocile et récalcitrante qui peuple notre imagination, nos paysages, cette altérité qui finalement participe à notre liberté. Alors, je crois que ça touche une idée philosophique très importante, la liberté, elle naît de l'altérité. Je suis libre lorsque, par rapport à quelque chose qui ne me ressemble pas ou qui est presque mon contraire, je peux quand même avoir ma vie et ma place. Et donc, si vous voulez, ça contrevient aux images un peu rebattues aujourd'hui, soit qu'on est en train de tuer la nature et que donc il n'y aura plus d'altérité, soit qu'au contraire, la nature va nous tuer. Les tsunamis en seraient un bon exemple. Et donc, dans les deux cas, c'est un des deux partenaires qui supprime l'autre. Or, ce qu'elle va, je pense, démontrer, mais je n'ai pas encore entendu la conférence et je n'ai pas lu son ouvrage, puisque ce n'est pas moi qui vais la présenter, à l'inverse de ce qui s'est passé mercredi où je présentais le conférencier et où, évidemment, j'avais lu le livre qui était l'objet de la rencontre. Donc, je n'ai pas lu et je ne connais pas son contenu, mais je trouve que le projet est intéressant de penser, au fond, l'altérité de l'humanité et de la nature comme quelque chose qui est non pas à supprimer ou à faire en sorte que l'un des deux termes disparaisse, mais au contraire à gérer.
Eh bien, nous allons maintenant parler de la conférence du mercredi 21 novembre, celle de Daniel Cohen.
Oui.
Alors, ça va être sur la société digitale. Savoir, bon, j'ai l'impression, c'est de se poser la question, finalement, si c'était mieux avant. Mais c'est peut-être pas ça, c'est pas que ça.
Alors, c'est plus que... Il ne faudrait pas croire que ce n'est que la mutation technologique. Hein. Ce qui est intéressant, et ça fait écho finalement à la première conférence de Rosan Vallon, qui au fond aurait pu aussi s'intituler « Les temps ont bien changé ». Depuis les années 60 et 68, où on a rêvé d'une autre société, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que déplorer l'absence de projet et l'engourdissement dans une société qui n'a plus rien à dire. C'est au fond cette trajectoire-là que le titre de Daniel Cohen traduit bien. Il faut dire que les temps ont changé. Et là aussi, l'une après l'autre, les utopies de la gauche et de droite se sont fracassées sur une réalité qu'il était impossible aujourd'hui de désigner par son nom. Elle nous transforme en... Donc, est-ce que ce passage à une nouvelle société, ici, numérique et digitale, c'est l'engloutissement de la culture, du savoir et de tout ce qu'on croyait qu'était la société? Ou est-ce que c'est une autre donne face à laquelle il nous faut bien, pas simplement réagir, mais donner du sens?
Alors évidemment, ces conférences sont traversées par des questions. Il y en avait une notamment, hein, le travail à la chaîne d'hier. A-t-il laissé la place à la dictature des algorithmes, ce qu'on vit actuellement et ce qu'on va vivre encore davantage? Et on verra qu'il y a d'autres conférences d'ailleurs qui parlent.
C'est sûr. Alors déjà, c'était le propos en partie de Rosan Vallon lors de la première conférence, qui est de dire qu'il n'y a plus d'imagination, puisque désormais c'est le travail au fond purement technique d'un algorithme qui va déterminer dans quelle case nous nous trouvons ou quel est le type d'action qu'il faut avoir. Et donc c'est vrai que ça génère alors des peurs un peu ancestrales, hein, cette idée que tout va s'engloutir. Vous savez, quand l'imprimerie a été créée, les grands savants on dit que c'était la fin de la culture, puisque ça allait être jeté en pâture à n'importe qui, que tout pourrait être dit, alors qu'au moins on savait quels étaient les canaux de transmission du savoir lorsque seuls ceux qui savaient lire et écrire le transmettaient. Donc, je ne dis pas que c'est la même chose, hein, mais je veux dire que l'attitude répulsive à l'égard d'une technologie qu'on ne maîtrise pas, c'est une vieille idée dans l'humanité.
Alors Michel Miaï, on peut dans ces conférences, eh bien, regarder le présent, interroger l'avenir. On peut aussi regarder le passé, et ce sera le cas le mercredi 28 novembre avec cette conférence, l'aventure de la biodiversité d'Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste. Et donc c'est Hervé Le Guyadet qui est biologiste qui nous en parlera. Voilà, parce qu'il a fait un livre très bien fait sur le sujet.
Tout à fait. Alors, vous voyez qu'on essaie surtout dans l'Agora des savoirs d'alterner les sciences sociales et les sciences dites dures, hein, que ce soit la physique, la chimie, la médecine, de la recherche, etc. Donc, vous voyez que là, au fond, le thème ici, si on avait dû donner un thème, je vais en dire un mot, c'est au fond le thème du changement, du basculement. Hein, depuis la conférence de Rosan Vallon jusqu'aux deux dont on vient de parler, parlé, c'est l'idée que nous sommes affrontés à une société que nous n'avions pas prévue, que nous n'avions pas organisée, mais qui s'impose à nous et qui nous oblige à réfléchir, pas simplement par rapport au futur, mais par rapport à ce que nous avions déjà expérimenté, mais que nous n'avions peut-être pas bien analysé. Et donc là, on peut conjuguer à la fois les travaux des sociologues, des historiens, des philosophes, et les travaux des chercheurs pointus scientifiques. Si vous voulez, par exemple, Hervé Le Guyader, il est professeur de biologie évolutive à Paris, et dans son laboratoire s'intitule « Systématique, adaptation et évolution », donc extrêmement pointu. Et je pense que c'est un peu le charme de l'Agora des savoirs que de ne pas être que soit littéraire ou philosophique. On a vu d'autres expériences dans d'autres villes où c'est un philosophe qui tient le haut du pavé et qui chante son public, mais enfin sur un modèle qui est quand même très unilinéaire pour moi. Et l'Agora des savoirs où on fait flèche de tout bois, c'est-à-dire on donne la parole à des enseignants et des chercheurs qui quelquefois ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas. Et même souvent, la rigidité des disciplines est telle que c'est souvent des canaux de sélection et de reconnaissance à travers des revues ou des colloques très précis et qui font que tous les savoirs ne s'intercroisent pas toujours, sauf à un très haut niveau. Et on le voit là, où finalement, des gens aussi différents qu'un historien, un sociologue, un anthropologue ou un scientifique, au sens traditionnel du terme, se croisent et croisent leurs recherches.
En tout cas, le mercredi 28 novembre, hein, on aura l'occasion de savoir bien comment le café est arrivé en Europe, à quoi ressemblait la gigantesque vache de mer aujourd'hui éteinte. Alors ça m'a très surpris. Et aussi, eh bien, il va nous décrire la première description de la banane et nous donner les ingrédients du chocolat originel. Voilà des petites choses, hein, qui peuvent intriguer les auditeurs.
Tout à fait. Le chocolat, vous savez, il nous est venu par la découverte de l'Amérique, hein, par le Mexique notamment. Et il faut savoir que le chocolat, il n'était pas sucré. Hein, que deuxièmement, c'était un médicament et pas du tout une boisson d'après-midi. Et qu'il était souvent salé. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui le chocolat. Mais ça déferlait. Il a fallu attendre quand même entre la fin du XVIe siècle et le XVIIe pour qu'on ait un petit siècle d'adaptation. Et ceux qui vont chanter les louanges du chocolat, c'est Madame de Sévigné, hein, parce que tout le monde boit du chocolat à la cour du roi. Ça devient même un luxe qui est très cher, mais qui est très à la mode et qui permet à Madame de Sévigné, qui n'aimait pas du tout la deuxième génération des littérateurs, elle était de la première génération, c'est-à-dire la génération de Corneille, les vieux d'une certaine manière, et puis arrivent les Racines, les jeunes, hein, et elle a ce mot terrible, elle dit « Racine, il passera comme le chocolat ». C'est-à-dire, c'est qu'une mode, hein, comme le café. Et donc, c'est intéressant de voir comment un produit qui est un produit d'abord presque médical, oui, médical, devient une boisson de plaisir, hein, disons, dans notre société.
Du mercredi 28 novembre, nous passons au mercredi 5 décembre avec une conférence de Annabelle Alouche avec un sujet qui vous est cher, c'est celui de l'enseignement.
Oui, alors il m'est cher parce que c'est l'enseignement pris dans une de ces techniques les plus anciennes maintenant, en tout cas en France depuis le 19e siècle, et les plus contestées quelquefois, qui est le concours, c'est-à-dire la sélection des meilleurs. Or, on se rend compte que le concours, qui a été réputé à partir de la fin du XIXe siècle comme le mode de recrutement le plus républicain, puisque tout le monde travaille sur le même sujet dans le même temps et sera évalué en aveugle, donc par des gens qui n'ont aucun intérêt à faire prévaloir l'un sur l'autre, et se révèle un siècle plus tard un mode de sélection sociale terrifiant. Et c'est le sociologue, notamment Pierre Bourdieu, il y a 20 ou 30 ans, qui a dévoilé, mais il n'était pas le seul, comment le concours permettait à ceux des classes fortunées d'arriver parmi les premiers. C'est-à-dire que le capital social doublait le capital scolaire ou intellectuel. Et comme ceux qui corrigent les examens sont ceux qui ont fabriquer les examens, eh bien, ils retrouvent dans les bonnes copies ce qu'eux avaient pensé. Et donc, ils vont les mettre en tête de liste. Et dans le concours républicain français, dont nous sommes si fiers, et peut-être par une sorte d'ironie du sort, le modèle le plus parfait de sélection arbitraire sur une base sociale. Alors, moi, je m'y étais intéressé parce que, bon, j'ai été membre de plusieurs grands jurys, l'ENA, la magistrature, les collectivités territoriales, et j'ai vu comment ça fonctionnait in concreto. Quand vous êtes au jury de l'ENA, vous comprenez comment on fabrique les générations des futurs grands technocrates de notre pays. C'est fascinant à observer. Je me souviens que, puisque c'est public, dans le public, une fois, il y avait un Canadien, et il est venu nous saluer, il nous a dit « c'est impensable au Canada ». Demandez à des gens qui ont entre 23 et 24 ans la somme de connaissances que vous avez exigées, mine de rien, sur l'histoire, la philosophie, les technologies, le droit, la science politique. C'est impensable dans une société autre que la société française. Et on voit bien comment tous les mécanismes en œuvre, apparemment pourtant les plus... comment on pourrait dire, les plus normaux, les plus non arbitraires, se révèlent être, par une sorte de ruse de la raison, des procédés par lesquels on se fait un clin d'œil complice pour reconnaître dans l'autre ce que nous sommes nous-mêmes. Donc ça, c'est absolument passionnant. J'avais écrit un article, d'ailleurs, sur le mode de recrutement par les concours, dans un ouvrage collectif, justement, sur la fabrication des élites. Et malheureusement, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que ça continue aujourd'hui. Et qui va dire que le concours n'est pas le mode le plus républicain de recrutement ?
Eh bien, peut-être la conférencière, le mercredi 5 décembre. Voilà. On parle de l'Agora des Savoirs avec vous, Michel Miaille. Et on va terminer avec deux conférences pour le mois de décembre qui achèveront le premier cycle de cette Agora des Savoirs qui fête sa 10e année. Le mercredi 12 décembre, c'est Pascal Pic qui est paléo-anthropologue et qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Alors, il a nommé ça « Et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences ». Et du coup, est-ce que l'humanité est en passe d'être dépassée sur ce qui faisait sa supériorité jusque-là sur les animaux et les machines, c'est-à-dire l'intelligence?
Oui. Alors d'abord, je voudrais dire que Pascal Pic est un habitué de l'Agora des Savoirs. Il est déjà venu plusieurs fois et à chaque fois, il enchante son public. C'est une remarquable mécanique intellectuelle. Et donc, il sait de quoi il parle parce qu'il a beaucoup expertisé les recherches archéologiques les plus pointues. Et là, au fond, son idée, c'est au moment où les machines sont plus intelligentes que les hommes, c'est dit ici, les machines accomplissent plus aisément les tâches ou les actions inventées récemment par les hommes que celles apparues au cours de notre évolution, se pose une question vertigineuse. En effet, comment allons-nous pouvoir finalement vivre dans une société où notre propre intelligence, qui a fabriqué les moyens que nous utilisons, nous dépasse ? Et bon, donc c'est intéressant de s'apercevoir que bien que nous soyons l'homo sapiens, on n'est pas au sommet de la courbe de l'intelligence et de la compréhension des choses.
Ce qui nous renvoie de toute façon à toute une imagerie aussi de la science-fiction. Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'homme ? Et pourquoi pas des guerres thermonucléaires et j'en passe.
Absolument.
Voilà. On termine le premier cycle de l'Agora des Savoirs le mercredi 19 décembre avec Jacques Tassin. C'est un peu singulier. Pensez comme un arbre. Voilà. Jacques Tassin est chercheur en écologie végétale au CIRAD à Montpellier.
Oui. Alors, c'est un thème qui n'est pas si nouveau parce que nous avions déjà fait venir un auteur qui a eu un franc succès parce que son ouvrage qui est arrivé juste après le film qu'il a fait sur la canopée.
Ah, Luc Jacquet.
Oui. Avait enchanté l'Agora des Savoirs il y a 3 ans à peu près. Ça avait été une soirée absolument extraordinaire où il nous a appris comment les arbres communiquaient entre eux, savaient à l'avance les dangers qui se préparaient, les faisait savoir par les feuilles ou par les racines. Et bref, qu'il y avait, j'oserais presque dire, une humanité des arbres qu'on a longtemps complètement ignorée. Alors, on savait bien qu'il y avait des peuples un peu primitifs qui, avant de couper un arbre, faisaient des prières, s'excusaient par avance et leur jetaient un peu d'eau bénite, si j'ose dire, sur les pieds. Mais on ne savait pas, en effet, notamment cette transmission, par exemple, de l'arrivage de frelons ou de je ne sais quel insecte nuisible par les arbres de proche en proche. Donc là, ça continue de, comment je dirais, de travailler un terrain qui commence à être légitime, me semble-t-il, et qui commence à gagner le grand public, qui n'est pas une espèce, comment on pourrait dire, d'écologie un peu béate sur il ne faut pas toucher aux arbres ou aux animaux parce que ça leur fait mal, mais qui révèle qu'il y a tout un savoir qui nous était complètement étranger, mais qu'apparemment des vieilles cultures avaient déjà développé sur les arbres comme être vivant et comme être capable, alors je ne sais pas si on peut dire d'intelligence, mais en tout cas de transmission de messages.
Eh bien, merci, Michel Miaille.
Au moment où on va couper les sapins de Noël, ça va peut-être en faire réfléchir quelques-uns et on va acheter des sapins en plastique, peut-être.
Ah oui, mais que faire du plastique ? Après, ça ferait l'objet d'une autre conférence, j'imagine.
Ah, après, on peut le réduire en boulettes. Il ne faut pas aller le jeter n'importe où et aggraver les déchets non assimilables par notre nature.
Merci. Donc, Michel Miaille, je rappelle, vous êtes président du conseil scientifique de l'Agora des Savoirs. L'Agora des Savoirs fête ses 10 ans, alors avec timidité pour l'instant, mais on ne sait jamais. En tout cas, le premier cycle s'achève le 1er décembre. Il y en aura un deuxième, puis un troisième. Ces conférences s'achèveront au mois d'avril.
Voilà, comme l'an dernier. Et je pense que nous aurons un moment de fête, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, pour ces 10 ans, parce que ça mérite d'être fêté. Et je pense que le public que nous avons eu déjà à la première conférence, que nous avons retrouvé au cours de ces différentes étapes, nous suit, nous entoure par certains côtés, et puis est une des raisons fondamentales pour que nous continuions ce travail. Ce n'est pas simplement mettre en valeur des scientifiques, ce qui est déjà bien. Ce n'est pas simplement rappeler que Montpellier est quand même un centre intellectuel et scientifique important, mais c'est surtout rappeler ce qui, pour moi, est une évidence, mais qui nécessite d'être toujours dite, que j'avais signalé au tout début où j'ai accepté cette présidence du Conseil scientifique, faire le meilleur pour le plus grand groupe. Donc, pas d'élitisme, tout le monde doit pouvoir y participer, mais le meilleur. Pas des choses un peu simplifiées avec un petit peu de mépris. Au contraire, le meilleur des recherches les plus actuelles, pour le public le plus large, même s'il se réduit à 500 places aujourd'hui dans le Rabelais.
Mais il y a des solutions, puisque si vous ne pouvez pas assister à ces conférences, vous pouvez les écouter sur Divergence, alors soit en direct, soit en podcast. Et donc, il y a aussi une chaîne YouTube.
Absolument, où on peut voir les images live.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence. FM.
Que voulez-vous, madame ? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.